Chapitre 4. Le soir où se produisit l'événement qui fut la première manifestation d'une série de faits au moins étranges, fut un soir comme tous les autres. Pour bien me prouver à moi-même que j'ai la parfaite conscience et le plus précis souvenir de ce qui se passa, j'en donne la date exacte, ce fut donc le 27 novembre que la chose eut lieu. Assez de précision, pour mieux établir encore que je n'avais pas perdu le sens de la réalité, j'ajouterai le détail circonstancié de cette journée. Je la commençai à l'heure ordinaire, c'est-à-dire assez tard dans la matinée. Les allées et venues de la Signora Verana dans le salon des stucs me réveillèrent. La Verana profitait de mon sommeil pour mettre en ordre le salon, ouvrir les fenêtres, préparer le feu et déposer sur la table mon premier déjeuner. Cela fait, elle frappait à ma porte et allumait une flambée dans la pièce où je procédais à ma toilette. À ce moment, je me levais, je revêtais un pyjama et j'allais boire ma tasse de chocolat. Pendant ce temps, la Verana faisait ma chambre et apportait l'eau chaude. Je ne l'apercevais plus que vers 1 heure de l'après-midi, quand elle me descendait mon repas, que je desservais moi-même, et dont elle emportait les reliefs lorsqu'elle m'apportait à dîner. Ce jour-là, tout se passa donc comme de coutume. Une fois levé, je pénétrai dans le salon des stucs. Le feu flambait dans la cheminée. J'y ajoutai une bûche, car il faisait froid malgré la belle journée qui s'annonçait. À travers les vitres, le ciel se montrait clair et bleu. L'air devait être pur, car les cloches de Carmini et des églises voisines tintaient avec une sonorité vive et nette. Je m'amusais à les reconnaître à leur timbre. Je distinguais celle de San Sebastiano et celle de Frari, celle de l'Arcangelo Raffaele. Les cloches des Carmini, dont le son est un peu fêlé, sonnaient si près que je ne leur donnais plus aucune attention, mais parfois des sonneries plus lointaines provenaient jusqu'à moi, apportées par le vent, et dont je ne pouvais assurer la provenance présumée. L'air de Venise est plein de caprices. Il est veiné de courants aériens comme la cité est innervée de canaux marins. Le seul incident de cette journée fut vers 2 heures une dispute de barcarolle. Deux lourdes barques s'étaient heurtées sur le rio de Santa Margherita, l'une chargée de fruits, l'autre transportant des planches, de grosses planches trapues et noires avec chacune un ornement rouge peint à la proue. Le choc fut assez rude et tout en cherchant à se dégager, les barcaroi s'injuriaient copieusement. On eût pu croire qu'ils en allaient venir aux mains, mais les querelleurs se bornèrent à se couvrir de sonores malédictions auxquelles un gros chien qui se trouvait dans la barque aux planches mêlait ses aboiements furieux. En un clin d'œil, la Fondamentale Foscarini, le Campo dei Carmini et les ponts se couvrirent de spectateurs, des enfants, des femmes en châle, des passants. Cependant, la dispute s'exaspérait quand tout à coup, sans raison, elle prit fin, ou peut-être parce que les deux gaillards avaient épuisé leur vocabulaire d'injures. Quoi qu'il en fût, les barques dégagées reprirent leur route silencieuse. Seul le chien poussa encore quelques jappements. La foule se dispersa et tout redevint tranquille sur le rio désert. Le calme rétabli ne fut plus troublé jusqu'à la nuit. Durant ces heures, je n'entendis plus que les bruits familiers, glissements de gondoles ou de barques sur le rio, pas sur les dalles des Fondamenta, voix de femmes et d'enfants, cris de marchands ambulants, sifflets et sirènes de navires sur le canal de la Giudecca, auxquels se mêlait ce mystérieux frémissement des choses qui sont comme les soubresauts et la respiration du silence. Il en fut ainsi jusqu'à l'instant où je me levai de mon fauteuil pour aller allumer aux appliques les bougies qui avaient renouvelé, comme de coutume, la signora Verana. J'ai déjà dit que j'attendais chaque jour cet instant avec une certaine impatience. Certes, j'aimais, dans le noble et charmant décor de mes stucs, les jeux de la lumière naturelle, mais j'en préférais les caprices nocturnes. Les scènes chinoises, des panneaux de faïence avec leurs princesses et leurs mandarins, leurs palanquins et leurs pagodes, leurs oiseaux et leurs fleurs, prenaient alors tout leur charme bizarre. Les vieilles dorures s'animaient et toute la pièce s'emplissait d'une atmosphère de luxe mystérieux. Dans la mosaïque du pavage, les fragments de nacre luisaient doucement de phosphorescence marine. Les flammes du foyer s'ajoutaient à celles des bougies, et je suivais leurs mouvements avec une attention et une curiosité qui ne se lassaient jamais. Cependant, malgré le plaisir que j'éprouvais à cette contemplation, c'était sur la grande porte en glace que se dirigeaient bientôt mes regards. Or, ce soir dont je parle, tout s'était passé comme d'habitude. Dans la cheminée, le feu consumait les bûches, les bougies brûlaient dans les appliques et le haut miroir reflétait, ainsi que de coutume, en ses profondeurs lointainement et obscurément illuminées, le décor magnifique et baroque de l'étrange salon, plus étrange d'être vu ainsi. Depuis un certain temps déjà, je goûtais l'attrait de ce spectacle, à peine interrompu par mon bref repas, et après cette diversion, j'étais retombé dans ma rêverie habituelle, que je prolongeais d'ordinaire jusqu'à ce que les bougies épuisées me donnassent le signal du repos. Ce fut l'une d'entre elles qui me tira de l'espèce de somnolence à laquelle je me laissais aller, les yeux ouverts. Sans doute, de moindre taille que les autres, elle avait dû être glissée par mégarde dans le paquet, car son grésillement me fit remarquer qu'elle était presque consumée entièrement et que sa flamme agonisante risquait de faire éclater la rondelle de verre de l'applique. Je me levai donc pour aller l'éteindre. Elle était justement placée à droite de la fausse porte. Au premier pas que je fis, j'eus l'impression de quelque chose d'insolite. J'avais bien devant moi le salon des stucs reflété. Je voyais les panneaux, les appliques, la cheminée, les meubles, mais je ne m'y voyais pas moi-même. La glace qui m'offrait dans leur lointaine exactitude tous les objets environnants ne me présentait pas mon image. La surprise que me causa la constatation de cette absence me tint un instant immobile, puis de nouveau je fis un pas. Le salon reflété était toujours vide de moi. Je m'approchai de plus près jusqu'à toucher la glace de ma main, mais je n'y voyais ni ma main, ni mon visage, ni mon corps. Le miroir ne tenait pas plus compte de moi que si je fusse devenu une ombre inconsistante, transparente et immatérielle. Seul s'y montrait le brillant et baroque décor dont j'étais le personnage non avenu. Cependant, j'étais vivant et bien vivant. Je respirais, je me mouvais, je ne rêvais pas. C'était bien moi qui étais debout devant cette porte de glace où je m'étais aperçu souvent parmi les objets qu'elle reproduisait fidèlement en ses lointaines profondeurs. J'étais le même et rien n'avait changé autour de moi. Les bougies brûlaient dans leurs appliques, le feu rougeoyait dans la cheminée. Le palais Altinengo était toujours le palais Altinengo. Venise était toujours Venise. Et pourtant, il me fallait bien reconnaître que j'étais devenu soudain un être exceptionnel et que cette journée, qui m'avait semblé pareille à toutes les autres, marquait mon entrée dans une existence paradoxale, comme si cette porte de miroir eût été l'emblème de l'arcade magique par où l'on pénètre dans le monde du mystère et de l'inexplicable, au seuil duquel je me trouvais maintenant, sans que rien eût paru y prédestiner jamais. Je n'étais en effet nullement préparé à devenir à mes propres yeux un personnage fantastique. Jamais je n'eus songé que pareille aventure eût pu m'advenir. Mon esprit n'est nullement enclin aux curiosités surnaturelles. J'avais toujours vécu d'une vie qui n'avait rien de merveilleux au double sens du mot. Mes plaisirs, mes chagrins, mes occupations avaient toujours été ceux du commun des hommes, et tout à coup, je me trouvais transformé en un héros de conte arabe. Cette transformation aurait dû me causer une profonde impression de surprise. Et au lieu de m'en émouvoir, je l'acceptais au contraire avec une facilité et avec une indifférence qui eût été inexplicable si le phénomène en question avait été un phénomène isolé, car j'aurais pu l'attribuer à un trouble visuel momentané. Mais il n'en fut pas ainsi. Le fait se renouvela en des circonstances trop identiques pour qu'il me fût possible d'en conclure à une illusion occasionnelle. Le lendemain, en effet, dès que je fus levé, mon premier soin fut d'aller me confronter au miroir qui, la veille, s'était montré si étrangement réfractaire à mon reflet. Docilement, il me le présenta en sa profondeur glauque. Cette expérience faite, je commençais ma journée comme de coutume après avoir demandé à la signora Verana de vouloir bien me procurer une petite glace à main qu'elle m'apporta dans l'après-midi. Lorsqu'elle fut partie, je continuai à lire et à rêvasser au coin du feu, tout en jetant parfois un regard vers la porte magique. Chaque fois, je m'y aperçus. Cependant, le jour baissait et le moment approchait d'allumer les bougies. Sans hâte, je procédai à l'opération. Je fis ainsi le tour du salon, puis je revins vers la porte. En ce miroir, elle ne reflétait plus que le salon vide. Trois soirs de suite, je réitérai l'expérience. Pendant le jour, le grand miroir acceptait mon image, mais le soir, elle en était exclue. La petite glace à main achetée pour moi par la Verana se comportait différemment. Elle ne refusait jamais de me refléter. Le phénomène n'avait donc pas pour cause un trouble visuel. Il n'en demeurait que plus étrange. Pourquoi, le soir venu et les bougies allumées, le panneau de verre de la fausse porte répétait-il chaque détail de ce qui m'environnait et m'acceptait-il d'y trouver place? Pourquoi cette exclusion d'une loi physique, exclusion que rien ne motivait sans une mystérieuse intention dont je ne parvenais pas à deviner la raison? Ce ne fut que le quatrième soir que je commençais à me rendre compte de ce qui se passait. Ce quatrième soir, donc, au phénomène que j'ai fidèlement rapporté, vint s'ajouter un événement plus étrange. Comme les soirs précédents, ayant allumé les bougies, j'étais revenu m'asseoir dans mon fauteuil auprès de la cheminée. J'y demeurai quelque temps, la tête entre mes mains, quand je fus averti par une sorte de curiosité instinctive que quelque chose d'intéressant se préparait. Quoi, oh, je n'aurais pas pu le formuler à moi-même, mais j'en avais l'impression très nette, si nette que mon regard se tourna vers la porte des miroirs, certain que c'était là où se produirait ce que je pressentais d'inattendu. Je ne me trompais pas. Car au fond du salon, des stucs reflétés, une forme se distinguait, forme encore incertaine et comme vaporeuse, mais qui n'était pas la mienne, car elle se déplaçait tandis que je demeurais immobile. Cette forme humaine remplaçait mon image absente. Je m'en rendais mieux compte à mesure qu'elle se faisait plus distincte. Peu à peu, elle le devint assez pour que je puisse distinguer le personnage qui m'apparaissait ainsi. Enveloppé d'un long manteau, il portait un tricorne avec des culottes courtes et une perruque, mais son image n'était pas visible. Une sorte de brume le couvrait, tandis que le reste du corps se dessinait assez fermement en grisaille. L'homme se tenait debout dans l'attitude de quelqu'un d'indécis. On eût dit un voyageur rentrant chez lui après une absence. Tout à coup, il fit un geste et porta la main à son visage. Je m'aperçus alors que ce que je prenais pour une brume était un de ces masques de carnaval dont usaient les Vénitiens de jadis. Mais sous ce masque, avant qu'il l'eût enlevé, j'avais déjà deviné mon visiteur nocturne. Ne devais-je pas, en effet, m'attendre à sa venue, annoncée par maints indices? Dès le premier soir de mon arrivée à Venise, quand je m'étais au Florian installé sous le chinois pour écouter les histoires de Pentaglia, ne rôdait-il pas déjà autour de moi? N'était-ce pas lui qui avait voulu que je vinsse habiter son propre palais? N'était-ce pas lui-même qui m'avait révélé son nom? Ne m'avait-il pas choisi entre tous pour se manifester à moi? Et tout cela, je le sentais si bien aujourd'hui que j'en éprouvais aucune surprise. N'était-il pas juste qu'il reprît possession de son salon au beau stuc? Devant lui, je ne pouvais que m'incliner en lui disant « Salut, Vincente Altinengo, salut. Soyez le bienvenu en cette demeure qui est la vôtre. » Et maintenant que son masque enlevé, je distinguais sa figure, je ne pouvais plus avoir de doute. Vincente Altinengo était bien semblable à ses effigies, à son buste et à son portrait. C'était bien Vincente Altinengo qui était debout devant moi, au fond de ce miroir d'où son image évinçait la mienne. C'était lui dont les pieds posaient sur le pavage de la mosaïque aux fragments de nacre incrustés et qui se tenait là, incolore, impondérable, presque encore immatériel, et sa présence me semblait si simple, si naturelle, que je ne cherchais pas à en comprendre le sens, l'intention et le mystère. Vincente Altinengo n'apparaissait pas chaque soir de la même façon dans le miroir de la haute porte. S'il attendait toujours l'heure des bougies, il ne se montrait pas toujours, comme la première fois, enveloppé du tabarro, coiffé du tricorne et le masque au visage. Quelquefois, il était assis, le coude sur la table. Quelquefois, il s'adossait à la cheminée. Quelquefois, il se tenait près de la fenêtre comme s'il regardait au dehors. Il lui arrivait assez souvent de se promener de long en large, avec l'air de quelqu'un qui réfléchit. Ses diverses attitudes n'étaient pas le seul changement qui se fût produit. Il s'en faisait un autre, plus sensible, de soir en soir. Peu à peu, en effet, la consistance de l'apparition se modifiait. Tout d'abord, l'ombre de Vincente Altinengo semblait, comme je l'ai dit, en quelque sorte immatérielle, impondérable, et de plus, elle était incolore en sa grisaille vaporeuse. Mais bientôt, il me sembla qu'elle prenait du poids et que sa substance se solidifiait. En même temps, elle se colorait de teintes de plus en plus réelles, faibles encore, mais déjà distinctes entre elles. Vincente d'Altinengo, à mesure que cette transformation s'opérait, perdait son air d'illusion. Au bout d'un certain temps, je distinguais la nuance des vêtements, la qualité des étoffes. Le visage, les mains devenaient peu à peu ceux d'un vivant. J'observais avec curiosité ses progrès. Avec une curiosité attentive et déjà familière, je contemplais ce compagnon taciturne. Je le regardais aller et venir au fond de la haute glace. Il y vivait solitaire, comme je vivais moi-même, séparés l'un de l'autre par une mince plaque de verre, et face à face, en notre isolement réciproque. Cette situation se prolongea un certain temps. Cependant, les apparitions de Vincente Altinengo, tout d'abord assez brèves, devenaient de plus en plus longues. Souvent, durant ses premières manifestations, le fantôme avait une certaine peine à se former, et lorsqu'il avait atteint le degré de perfection auquel il pouvait parvenir, il se dissipait graduellement et se dégradait avant de s'effacer. Maintenant, il parvenait beaucoup plus vite à son aspect de réalité et s'y maintenait jusqu'au moment où les bougies commençaient à s'éteindre. Quoique j'eusse pris aisément mon parti de cette présence singulière, une question se posait cependant à mon esprit. Vincente Altinengo s'apercevait-il de mon existence? Étais-je visible pour lui comme il l'était pour moi? Jusqu'alors, aucun indice ne me permettait de le supposer, mais un moment arrive où il fut impossible de penser différemment. Ce soir-là, Altinengo se promenait, les mains croisées derrière son dos, et toute sa personne était ce soir-là particulièrement distincte. Tout à coup, il s'arrêta, se tourna brusquement de mon côté, fit un geste de surprise, puis reprit sa promenade, mais il paraissait préoccupé. Évidemment, Altinengo avait été troublé par quelque chose, et c'était moi, peut-être, qui était la cause de ce trouble. Cette idée me revint les soirs suivants, car l'inquiétude d'Altinengo ne fit qu'augmenter. Elle se manifestait par une agitation marquée, par les regards qu'il jetait vers l'endroit de la pièce où je me trouvais, par certains gestes et certaines attitudes. Altinengo m'épiait, tantôt ouvertement, tantôt à la dérobée. Parfois, il se levait brusquement du fauteuil où il venait de s'asseoir, faisait plusieurs tours de chambre, puis s'arrêtait immobile, l'œil au guet, l'oreille tendue. À plusieurs reprises, je le vis se frotter les yeux, comme quelqu'un qui cherche à dissiper quelque illusion visuelle. Un soir, pourtant, je n'eus plus de doute, et voici à la suite de quelles circonstances. Ce soir-là, Altinengo s'était promené assez longtemps à travers le salon, quand je le vis soudain se diriger vers une des portes. À ses gestes, je compris qu'il introduisait un visiteur, et si ce visiteur demeurait invisible, je ne me rendais pas moins compte de l'objet de cette visite et du sujet de l'entretien. Il s'y agissait évidemment de moi. Altinengo expliquait les phénomènes insolites qu'il constatait. Il répondait aux objections de son interlocuteur. Celui-ci cherchait probablement à le convaincre qu'il était le jouet d'une illusion, mais Altinengo secouait la tête comme un homme qui ne veut pas entendre raison. Altinengo et moi, nous existions l'un pour l'autre. Cette persuasion eut pour conséquence, de ma part, une violente envie de communiquer avec cet être si proche de moi et si lointain. Il me semblait qu'Altinengo éprouvait un sentiment analogue. Quoi d'étonnant à cette réciprocité ? Un mystérieux hasard ne nous mettait-il pas en présence, moi le Parisien d'aujourd'hui, lui le Vénitien de jadis? Ne répondrions-nous pas ainsi à quelque profonde intention de la destinée? N'obéissions-nous pas à des coïncidences secrètes qui voulaient que ce vieux palais abandonné à Venise fût le lieu de notre rencontre? Étrange aventure à laquelle rien ne m'avait préparé, mais que j'accueillais sans étonnement. Pourquoi ne l'aurais-je pas acceptée puisqu'elle se présentait dans de pareilles conditions de facilité, avec un tel naturel? Elle n'était le résultat d'aucune conjuration et d'aucune sorcellerie. Quelques petits faits épars m'y avaient conduit insensiblement. Pourquoi la refuser puisqu'elle venait à moi? Et puis, hôte de Vincente Altinengo, n'était-il point de simple politesse de tendre la main à son ombre? Et Altinengo pensait de même. J'en avais maintenant acquis la certitude. Jusqu'alors, il s'était tenu volontiers au fond de la pièce. Mais de soir en soir, il se rapprochait davantage. Je le voyais à présent de tout près. Pendant des heures, nous nous observions face à face. Seule cette mince feuille de verre s'interposait entre nous, et nous sentions qu'elle ne tarderait pas à se briser, car il fallait qu'elle se brisât. C'était l'événement nécessaire, certain, inévitable. Seulement, qui de nous deux le provoquerait? Serait-ce Altinengo? Serait-ce moi? Serait-ce le fantôme ou le vivant? Qui des deux serait le plus hardi? Et cette question, nos regards se la posaient, tandis que, debout, nous demeurions ainsi en face l'un de l'autre, chacun d'un côté de la vie, tandis que derrière nous, à la clarté des bougies, le décor magnifique et baroque des vieux stucs et des faïences luisait de ses ors miroitants, tandis que, au-dessus de nos têtes, s'étageait sur ses pilotis rongés l'antique palais des Altinengo en sa vétusté branlante, tandis qu'alentour la mystérieuse Venise nocturne se superposait, fragile, compliquée et merveilleuse, à son propre reflet, doublée par le miroir de sa lagune circulaire et des eaux insinuées par mille canaux en sa mosaïque architecturale, Venise sur qui brillait, semblable à l'un des fragments de nacre du pavimento, le disque écorné de quelques lunes étincelantes. Et de soir en soir, l'événement inévitable devenait plus imminent. Il était ma seule pensée et m'occupait tout entier. J'oubliais complètement tout ce qui n'était pas Altinengo. Je m'oubliais moi-même. Si l'on m'eût demandé pourquoi je me trouvais à Venise, au fond de ce vieux palais, quelles circonstances de ma vie m'y avaient amené, je n'aurais certainement pas su que répondre. Mais personne ne m'interrogeait. Nul ne venait distraire ma solitude. Les vagues propos de la signora Verana rompaient seuls le silence qui m'entourait, tandis que bourdonnaient au dehors les grands vents qui soulèvent et gonflent les marées d'automne, ces marées qui gorgent d'eau les canaux de Venise, montent les marges des quais, pénètrent sous les portes marines et envahissent les vestibules des palais, alors qu'un souffle de tempête ébranle leurs hautes cheminées et secoue l'armature de bois de leur arlana. Marée si haute parfois qu'elle recouvre le môle et déborde sur la piazzetta, faisant de la place Saint-Marc un lac aux petites vagues agitées, sur lesquelles semble voguer, comme un bucentaure de marbre et d'émaux, le vaisseau byzantin de la basilique martienne. Marée saline, souffle du large que le lion, sur sa colonne de porphyre, aspire de ses narines avides et dont palpitent dans un vol imaginaire ses ailes de bronze. Mais que m'importait tout cela? Une seule chose existait pour moi. Qui d'Altinengo ou de moi ferait le geste décisif que nous attendions tous les deux? Car nous le désirions tous deux, car nous le désirions et l'attendions l'un et l'autre. Nos visages se touchaient presque, nos yeux s'attiraient avec une curiosité infinie, nos mains se cherchaient. Serait-ce moi? Serait-ce Altilingo? Serait-ce quelque hasard qui se chargerait de réaliser le miracle? Le sommeil dont je m'éveillais était un sommeil singulier. Il me semblait qu'il durait depuis très longtemps, depuis plus longtemps que ne durent les sommeils de chaque nuit. Profond, absolu, il avait été une cessation complète de tout mon être. Tout avait été endormi en moi. Mon corps, mon sang, ma pensée, ma mémoire, mon présent, mon passé. Du fond de ce sommeil, je remontais lentement, comme d'un abîme, en une ascension continue. Maintenant, j'effleurais à la surface, je redevenais un vivant. Oh, je ne vivais pas encore, mais j'allais vivre. Bientôt, j'allais pouvoir ouvrir les yeux, remuer mon pied, ma main, me mouvoir, parler. En silence, je regardais. J'étais couché dans un lit. Autour de moi, les murs ripollinaient d'une chambre succinctement meublée. Je portais une chemise de grosse toile. Quelque chose serrait ma tête, un bandage. Et où étais-je donc? Que faisais-je dans ce lit? Pourquoi cette cellule blanche? Qu'était-il arrivé? Je fis un geste et je rencontrai la poire d'une sonnette. Une jeune infirmière parut et s'approcha de moi. Elle me prit le poignet en souriant. « Eh mais, notre cher malade est beaucoup mieux aujourd'hui. A-t-il besoin de quelque chose? D'abord, je vais chercher le docteur. Il est dans son cabinet. » Il m'a bien recommandé. Je l'arrêtai. Mais ce dont j'aurais besoin tout d'abord, mademoiselle, c'est de savoir où je suis. La jeune femme se mit à rire. Ah, c'est vrai, oui. Mais vous êtes à la clinique du docteur Bellinicioni à la Giudecca. Plus d'une fois, en me promenant dans la Giudecca, j'avais passé devant la petite maison jaune aux grandes cheminées en bottes qui montrait, inscrite au-dessus de la porte, une grande croix rouge. Une fois même, j'étais entré pour examiner le jardin que l'on apercevait du dehors à travers le vestibule. Mais pourquoi suis-je dans la clinique du docteur? Ah, tenez, le docteur lui-même va vous le dire, monsieur. Le docteur Bellincioni était un gros homme jovial et avenant, au visage rasé. Sans répondre à mes questions, il commença par m'examiner. Son investigation parut le satisfaire, car une fois terminée, il s'assit sans façon sur le pied de mon lit et me dit en se frottant les mains qu'il avait belle. « Allons, allons, cher monsieur, voici qui est parfait. Vous êtes maintenant bien d'affaire. Tout... Ah, encore du repos, du régime, du calme. La plaie n'est pas cicatrisée, mais les phénomènes anormaux ont disparu complètement. » « Dame, le choc a été rude et vous avez été rudement atteint. » Je m'étais soulevé sur mes oreillers. « Mais quel choc, docteur !»« Quel choc ! Celui de cette lourde porte de miroir qui s'est détachée de son cadre et qui vous est tombée sur le crâne en se brisant en éclats. Ce sont ces éclats et la commotion qui vous ont occasionné la grave blessure dont vous êtes en train de guérir. » vous vous en êtes tiré à bon compte, cher monsieur. Mais permettez-moi de vous dire que la personne qui vous a indiqué comme logis ce vieux palais Altilingo n'avait pas fait là un choix très heureux, car non seulement la porte qui vous a blessé a dégringolé, mais le lendemain de notre accident, une partie du mur s'est écroulée et le pavimento s'est effondré. Le palais était, quand vous y êtes entré, dans un état de délabrement inquiétant et n'a pas résisté à la grande marée et au vent qui a soufflé en tempête. Il a bien failli s'abattre tout entier dans le canal. D'ailleurs, la municipalité l'a fait évacuer et il est question de le démolir. J'avais écouté avec attention le docteur. Il continua. Bon, l'accident a dû se produire dans la nuit. Ce qui est curieux, c'est que les autres habitants du palais n'ont rien entendu du fracas. Il est vrai que votre appartement était assez isolé et qu'il ventait très fort ce soir-là. Au matin, entrant chez vous, la Signora Verana, votre gouvernante, vous trouva inanimée, étendue dans une mare de sang. Cette dame eut la bonne idée de vous faire transporter à ma clinique. Elle est venue plusieurs fois prendre de vos nouvelles, ainsi qu'un brave antiquaire nommé Zottarelli et un de vos amis, le Signore Prentinaglia, revenu de voyage le surlendemain de votre accident. Il s'en est montré fort ému et m'a longuement interrogé sur les circonstances qui en ont été la cause, mais je n'ai pas pu le renseigner. Peut-être le pourrez-vous mieux que moi, et peut-être vous souvenez-vous de la façon dont les choses se sont passées entre vous et cette diablesse de porte qui a bien failli, ma foi, vous servir de passage pour l'autre monde. Mais en voilà assez pour aujourd'hui, nous n'avons que trop bavardé. Vous allez prendre quelques heures de repos avant le pansement du soir. J'acquiesçai au conseil du docteur Bellicioni, et après l'avoir remercié de ses bons soins, je me mis à réfléchir. Devais-je accepter la version du docteur Bellicioni? Le hasard avait-il mis brutalement fin à l'hallucination dont j'avais été le jouet pendant des semaines? Comme mon propre corps, l'ombre fragile de Vincente Altinengo avait-elle été atteinte par la brusque chute de la porte? Était-ce par l'accident que notre mystérieux colloque avait été interrompu? La merveilleuse aventure au seuil de laquelle j'avais cru me trouver s'était-elle terminée bêtement par la stupide blessure qui m'avait empêché de la conduire jusqu'au bout? S'était-elle continuée dans cet anormal sommeil qui avait étonné et inquiété le docteur Bellicioni? Avais-je, pendant ce temps, rejoint Vincente Altinengo dans le mystérieux domaine où il avait voulu sortir et où il avait voulu m'attirer? Quoi qu'il en pût être, j'en avais, hélas, complètement perdu tout souvenir. Ainsi, la dernière chance qui m'avait été donnée d'échapper un instant à ma triste vie s'était évanouie. Peut-être Vincente Altinengo, dans le même salon au décor de stuc et de faïence, avait-il souffert jadis des mêmes mélancolies que les miennes? Et peut-être venait-il m'en apporter le mot consolateur que j'ignorerais à jamais. Mais aussi, tout cela n'est-il pas des rêveries de ma pauvre tête fêlée, et qui ferait sourire le docteur Bellicioni si je m'avisais de les lui confier. Lorsque, vers le soir, le docteur, après m'avoir assez douloureusement pansé, eut ajusté mon bandage, il me dit d'un air satisfait: « Allô, la plaie est en bonne voie, en très bonne voie. Et si demain, messieurs Zottarelli et Plantimaria viennent savoir de vos nouvelles, je laisserai entrer un instant auprès de vous. » Le signor et Plantinaglia se présenta le premier. Il se précipita sur mon lit et me baisa les mains avec frénésie. « Ah, ami, ami très cher, quel reproche je me suis adressé, car enfin c'est de ma faute. C'est de la faute de votre Prentinaglia si tout cela est arrivé. Oui, n'est-ce pas moi qui vous ai indiqué ce maudit palais Altinengo? Ah, votre pauvre tête, je ne me le pardonnerai jamais. » Et d'une main, se frappant la poitrine, de l'autre il désignait le linge de mon pansement. Il était debout, vêtu comme toujours de sa vaste houppelande, avec sa jaune figure de comédie. À son doigt brillait la bague cabalistique dont il avait cacheté la lettre par laquelle il me donnait l'adresse du palais des Fondamenta de Carscalini et de la Signora Verana. Qu'y avait-il de commun entre cette taciturne Vérana au regard sournois et ce Printilalia à la figure comme masquée? Et ce fou de Lord Sperling avec la Casa degli Spiriti? Printilaglia était revenu à Rome avec lui et l'avait laissé se rendant à Milan pour un congrès de sciences psychiques. Mais bientôt, on se retrouverait sous le chinois du Florian. Et Printilaglia ajouta négligemment: Ah, à ce propos, mon cher, vous vous souvenez de l'histoire du petit buste du musée civique dont je vous avais tant conté la disparition? Eh bien, il a repris sa place dans sa vitrine. Un beau matin, on l'y a retrouvé, toujours souriant, sous sa perruque. Mais le mystificateur qui l'avait emporté a dû le laisser tomber, car on y a constaté une fêlure assez visible. On le répare en ce moment. Mais je vous fatigue, mon ami. Au revoir et à bientôt, je reviendrai. Et Printilaglia, son feutre, sa houppelande disparurent, tandis qu'à son geste d'adieu, je voyais luire à son index la cornaline au signe de grimoire. Lorsqu'il fut parti, je me sentis un peu las et je fermai à demi les yeux. J'étais seul dans ma chambre blanche. Le grand silence de la Giudecca m'entourait. En pensée, je revis les Fondamenta Mentor Scalini, le vieux palais avec sa façade grise aux persiennes vertes, aux stores couleur d'encre, au balcon ventru, son escalier aux marches usées et aux murs salpêtrés, le petit palier de mosaïque où s'incrustait un fragment de nacre, le vestibule, la chambre au médaillon, le salon des stucs avec ses moulures, sa cheminée, ses panneaux de faïence aux figures dorées. Je revis la haute porte de miroir en son encadrement de marbre, où dans la lointaine profondeur de son reflet, m'était apparu, comme pour accueillir de l'au-delà l'hôte actuel de son antique demeure, ombre mystérieuse, ou illusion maladive, Vincente Altinengo, vénitien. Et d'un geste d'adieu, tandis que les cloches du Redentore et de Santa Eufemia brisaient leur son dans l'air cristallin, je saluais une dernière fois son image, qui semblait, de son sourire énigmatique, narquois et mélancolique, répondre à mon salut, et que je n'ai plus jamais revu.